Chapitre 7. Chrysler veut aboutir. Francis Drake devait toujours se souvenir de la scène atroce qui suivit. Une dernière fois, Jellis prononça Chrysler de sa voix sans timbre. « Vous refusez de me communiquer le chiffre permettant de traduire les dossiers de Lowell. » « Je refuse, » déclara le solliciteur, si bas qu'on l'entendit à peine. Muet, Chrysler se tourna vers les deux matelots qu'il était allé chercher et leur adressa un signe de la main. Les deux marins, de superbes brutes, aux encolures de taureaux, aux mufles larges et aplatis, accrochèrent une petite poulie à une boucle de fer rivée dans une des cornières du plafond. Une corde fut passée dans cette poulie, puis un des marins, ayant soulevé le solliciteur dans ses bras, le tint au-dessous de la poulie. L'acolyte fixa l'extrémité de la corde au poignet du malheureux, Jellis, au moyen de deux demi-clés bien serrées. Cela fait, le solliciteur fut déposé sur le tapis, et les deux brutes, ensemble, empoignèrent l'extrémité libre de la cordelette et tirèrent doucement. À l'appel de la corde, le malheureux Jellis dut se relever. Il trébucha plusieurs fois, mais la cordelette le retint rudement. Une fois debout, il dut lever son bras, mais les deux brutes continuèrent à tirer. Encore quelques centimètres et l'infortuné solliciteur se trouva suspendu par le poignet, la pointe de ses pieds effleurant le sol. Sa souffrance devait être grande, car les traits de son visage s'étaient contractés et il serrait les mâchoires, sans doute pour retenir le cri prêt à partir. Impassible, Chrysler s'approcha de sa victime. Il examina avec attention le nœud en serrant son poignet. Il se baissa et s'assura que les orteils du supplicié, s'il frôlait le plancher, en étaient encore trop loin pour y prendre un point d'appui, et, satisfait, ordonna aux deux matelots de fixer l'extrémité libre de la corde à un taquet, ce qui fut fait immédiatement. Les deux brutes sortirent aussitôt. Le silence régna dans la cabine, troublé seulement par le halètement précipité du solliciteur. « Ce n'est que dans une heure que vous commencerez à souffrir vraiment, » l'avertit Chrysler. « Souvenez-vous qu'il ne dépendra que de vous d'être dépendu. Le temps de me révéler le chiffre d'Elwell. Et souvenez-vous également que dans 2 heures, lorsque votre bras gauche commencera à s'engourdir et à se paralyser, et que vos douleurs s'apaiseront, je vous ferai alors suspendre par l'autre bras. Nous verrons qui se lassera de nous deux. Et ceci est un avis qui s'adresse aussi à vous, Drake. » Et de nouveau, ce fut le silence. Chrysler, ayant allumé un cigare, resta pendant une vingtaine de minutes affalé dans un fauteuil, devant son bureau, à griffonner des papiers. Le poignet de Jellis était devenu bleuâtre et tuméfié. Sa face cireuse s'était injectée de sang. Ses yeux enflés étaient fixes. Par moments, il essayait d'allonger son corps en quelque sorte pour parvenir à appuyer ses pieds sur le plancher et alléger le poids étirant son bras. Il ne réussissait qu'à incruster un peu plus profondément les liens dans sa chair. Les suppôts de Chrysler avaient attaché la corde à la hauteur voulue et leur nœud, savamment fait, ne se desserrait pas. Chrysler se dressa. Il eut un coup d'œil pour Jellis, un autre pour Francis Drake, lequel avait fermé les yeux pour ne plus voir l'agonie du solliciteur. Ayant décroché le téléphone, grogna. « Marbourg, venez avec le chimiste de suite. »« Comment ? » ?»« Oh, ne répondez pas, inutile de l'exciter. Les affaires avant tout, venez. » L'appareil raccroché, Chrysler alluma un second cigare. « Ça commence à faire mal, » dit-il au solliciteur. Et en même temps qu'il parlait, il lui heurta brutalement du tranchant de sa main le biceps tendu de sa victime. La douleur fut si forte que l'infortuné légiste lâcha un râle rauque tandis que son corps tout entier se contractait. Le chiffre de l'ouelle ? Demanda le bandit. Ou je recommence ? Jamais ! Parvint à dire Jalis d'une voix à peine intelligible. Chrysler haussa les épaules, il n'insista pas. Il avait le temps. Moins de 5 minutes plus tard, l'on frappa. C'étaient 2 matelots, ceux qui avaient suspendu le sollicitor. Ils apportaient, étendus sur une civière, un grand gaillard blond et blême, et qui semblait en proie à une effroyable fureur. Il se tordait dans ses liens et agitait le brancard auquel il était solidement fixé, de soubresauts si furieux que les 2 brutes avaient de la peine à le maintenir. « Porc, brute, fourbe, voleur !» glapissait-il. « Me doutez bien que c'était vous. Vous que j'ai tiré de la crotte, que j'ai nourri, à qui j'ai prêté 20 $. »« 10% par mois d'intérêt !» ricana l'individu à qui s'adressaient des invectives et qui suivait les brancardiers improvisés. « 10% d'intérêt, misérable teuton de malheur !» gronda l'homme étendu sur la civière. « J'aurais pu en tirer 20, vous ne parliez pas ainsi lorsque je vous ai... » Tandis qu'il parlait, ses porteurs avaient franchi le seuil de la cabine. L'homme vit devant lui le misérable sollicitor, suspendu par le poignet et plus mort que vif. Ce spectacle arrêta les paroles dans sa bouche. « Jalis ! » s'écria-t-il. « Oh ! » Parfaitement, le solliciteur Jalis, Mr. Well, et qui est suspendu ainsi en châtiment de sa déplorable opiniâtreté, fit tranquillement Chrysler, qui de la main ordonna aux marins de déposer leur fardeau près de la porte. Ils obéirent en silence, tandis que le petit homme, si rudement invectivé par Elwell, entrait et refermait le battant sur lui. Elwell, cependant, après être resté quelques secondes muet de surprise, avait rapidement repris ses esprits. Il parla. « Je suppose, gentlemen, que vous êtes d'accord avec ce misérable Marbourg, qui, après avoir été mon aide pendant 10 ans, a disparu en me volant. » « S'il en est ainsi, ce petit jeu vous coûtera cher, je vous en avertis, les tribunaux. »« Oh, je suis en effet d'accord avec Mr. Marbourg, » coupa l'impassible Chrysler. « Mr. Marbourg, tout comme vous, aime l'argent. Il a pensé avec raison qu'il ne gagnait pas assez chez vous et a cherché autre chose. C'est lui qui m'a apporté votre invention de la congélation humaine, grâce à laquelle j'ai pu vous transporter ici à bord. » Et vous conservez sans avoir à vous surveiller. C'est la première fois qu'un inventeur expérimente sa trouvaille sur lui-même. Généralement, ces gentlemen opèrent sur les autres pour bien être sûr qu'ils ne sont pas trompés. Et tel n'est pas le cas, puisque les appareils inventés par vous ont très bien fonctionné. Mais le sont-ce là ? Marbourg aimait l'argent, vous aussi. Je vous en offre. 100 000 $ et votre liberté en échange des formules que vous avez découvertes sur la synthèse des couleurs dérivées du chlorure de sodium. Je désire les formules 71 et 19, celles dont vous aviez confié le dossier à Mr. Jalis, lequel expire en ce moment l'obstination imbécile qui ne met à ne pas vouloir me relever le chiffre permettant de les mettre en clair. Mais il finira par en faire à ma volonté. Il n'avait qu'à le regarder. Lorsqu'il aura plusieurs fois changé de bras, il s'assoupira. Et j'aurai les formules. À ce moment, je n'aurai plus besoin de vous. Je ne vous cache pas que, les affaires étant les affaires, je vous détruirai, histoire de m'assurer de votre discrétion. Tandis que ce moment, si vous acceptez, je vous offre les 100 000 $ en question et une part sur les bénéfices de l'exploitation de vos procédés. Je suis carré. Je suis maintenant propriétaire de la majorité des actions de l'Amalgamated Dining Co., dont le président Francis Drake est également en mon pouvoir. Regardez-le. Je tiens sa fille aussi. Pas besoin de commentaires, n'est-ce pas ? D'autant plus que je ne crois guère m'avancer en vous annonçant mes prochaines fiançailles avec Miss Drake. Donc, les formules que vous vouliez vendre à Francis Drake, vendez-les-moi. Nous sommes hommes à tout entendre. J'ai grande confiance en vous. Nous sommes les maîtres de l'industrie des couleurs dans le monde entier. Et vous ferez comme Marbourg, grommela Helwell sardoniquement. En entrant dans la cabine, il n'avait pas vu Francis Drake à demi caché par le rideau de la couchette sur laquelle il était étendu. Et contrairement à la pensée de Kressler, Helwell, en voyant le président de l'Amalgamated Line Co., le grand financier Drake ainsi ligoté, en avait ressenti qu'une colère plus grande. « Oh, je ne ferai pas comme Marbourg !» déclara froidement Kressler. « Je ne suis pas Marbourg. Je suis Karl Kressler. Je m'étonne que vous ne m'ayez pas reconnu. Marbourg a agi suivant mes instructions. Il a été payé pour me voler !» éclata Helwell. « Oh, plus ça comme vous le voudrez. C'était votre préparateur. Il avait une part dans vos recherches. Il vous a aidé à découvrir vos formules. Je n'ai pas cherché quel a été son rôle dans vos trouvailles. Son rôle à ce videur d'éprouvette, incapable de discerner un acide d'un alcalin, jeta le chimiste en essayant de se dresser de son brancard. Un nègre aurait mieux fait l'affaire. Ce n'est pas la question. Laissez Marbourg et n'oubliez pas que je veux vous faire remettre dans la chambre de froid. Inventé par moi aussi. Et que Marbourg a la direction des appareils frigorifiques, acheva Kressler avec flegme. Il peut laisser descendre la température, vous me comprenez. Well, allez, acceptez-vous mes propositions. La liberté est 100 000 $. Vous n'avez faire préparer une carte comme pour le sollicitor. Mais vous, vous êtes plus solide. Ce sera par les pouces que je vous ferai suspendre. Allez, vous avez 10 minutes pour vous décider. Helwell eut un violent frisson. Il regarda Jellis, dont la face décomposée était horrible à voir. Il regarda Drake, qui gardait une impassibilité qu'il était loin de ressentir. Il regarda Kressler, et un second frisson le secoua. « Mes formules ne sont pas au point, » essaya-t-il de biaiser. « Il me manque encore un bon fixatif. » Celui que j'ai fait pâlir, fait pâlir certaines teintes. Oh, il importe, donnez-moi toujours la clé permettant de déchiffrer les dossiers. Vous aviez confié à Jellis et qui sont là dans mon bureau. Je vous demande que cela pour l'instant. Helwell, se sentant deviné, ne trouva pas de réponse. Allez, finissons-en, reprit Kressler, dont la voix se vit un peu plus âpre. Je vous offre 1 000 000 $. N'oubliez pas que d'un moment à l'autre, Jellis va tout me... Et comme si le sort eût voulu donner un démenti à ses paroles, l'infortuné sollicitor fit entendre un râle sourd. Kressler instantanément tourné vers lui, puis qu'il avait perdu connaissance. Sa tête grise bandait sur sa poitrine. Ses yeux s'étaient refermés. Le bandit bondit vers Jellis, et vivement dénoua la corde qui le maintenait suspendu par le poignet. Le corps du sollicitor s'avessa, flasque sur le plancher. « Oh, il n'est pas mort, heureusement !» murmura Kressler, après avoir appuyé son oreille contre la poitrine de sa victime. « Nous le ferons revenir tout à l'heure. Puis parlera, vous parlerez, Helwell. Vous êtes tous entre mes mains, et vous en passerez par où je voudrais, sachez-le. » Pour commencer, je vais vous faire changer d'idée, Helwell. Suspendu par les pouces à mi-main et toute la nuit. Demain, vous serez trop content de parler et sans rien demander que d'être descendu. Bon, je me tuerai ou vous me tuerez, mais vous n'aurez pas mes inventions, gronda le chimiste avec une énergie d'avare. Adressez-vous à Marbourg, puisqu'il est si intelligent. Moi, le tintement de la sonnerie du téléphone couvrit la voix du chimiste. « Eh bien ?» demanda Kressler en rapprochant le téléspectateur de son oreille. Il écouta, et ce qu'il entendit ne dut pas être agréable, car il y répondit d'une voix sèche. « Bon, je viens. Inutile de forcer la machine. Nous ne marchons pas assez vite. Ne touchez à rien avant que je vienne. » L'appareil fut raccroché d'une main un peu nerveuse. « Marbourg, tous les prisonniers dans la chambre de froid, et de suite !» Miss Drake aussi. Clore, formez-les pour aller plus vite. Vous fermerez ensuite les cloisons de la soute. J'irai voir. Allez, dépêchons. Il faut absolument que tout soit en place dans 20 minutes au plus. Je vais vous envoyer Urmart avec des hommes. Ligotez le solliciteur en attendant. Ce disant, Chrysler bondit vers la porte de la cabine, l'ouvrit et siffla. Presque aussitôt, le premier officier de l'Adler arriva avec 4 hommes. Faites ce que vous dira Herr Marbourg, ordonna le bandit, qui, ayant refermé son bureau, sortit de la cabine et s'élança vers la passerelle.